réflexion sur le psaume du 5 février. Aujourd'hui, nous allons aborder le psaume 1, le premier psaume du psautier. Je vous dis juste un mot, vous avez esquissé cela sur les feuilles que je vous avais données, les feuilles d'instruments de travail. Vous vous souvenez que je vous avais distribué la première fois. Si vous les avez, vous les prenez une seconde sous les yeux, sinon je ne vais pas trop déterminant. J'ai mis la copie d'un index qui est toujours intéressant quand on ignore trop souvent l'existence, à savoir un index des citations du Nouveau Testament. C'est à la fin de l'édition grecque du Nouveau Testament, dans les dernières pages, on trouve cela. Donc, qui est en libellé en anglais. Vous voyez, Index of Quotations, ça c'est les citations, et puis Index of Allusions, les allusions. Alors, d'une part, pour les citations, on prend le psaume verset par verset et on dit, voilà, vous avez une citation de tel verset à tel endroit. Par exemple, le psaume 2, le verset 7, il est cité en acte 13, 33, en hébreu, à 5, etc. Donc ça permet de voir où tel verset psalmique est cité et quel verset psalmique est cité souvent. Par exemple, si vous voyez, si vous prenez, donc je suis dans la partie supérieure gauche de cette feuille, le psaume 110, le verset 1, oracle du Seigneur à mon Seigneur, ciel à ma droite, on voit qu'il est déterminant, il est cité deux fois en Matthieu, deux fois en Marc, deux fois en Luc, dans les actes, dans la lettre aux Hébreux. Donc c'est un verset qui a joué un grand rôle pour le Nouveau Testament.
Le numéro de la page,
s'il vous plaît. Instrument de travail, page 1. Le paquet que j'ai donné la première fois. J'avais donné des pages 1 à 10. J'avais donné des pages numérotées 0 à 10. Oui. Et puis après, quatre pages notées, instruments de travail, page 1, page 2, page 3. Donc c'est facile pour repérer là où sont cités les psaumes, ou bien aussi il y a un index des allusions. Par exemple, le psaume 2, verset 7, donc index of allusions. Le psaume 2, verset 7. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai rencontré. Ben voilà, on voit qu'il est cité souvent. Alors je vous ai mis dans le bas de la page un petit passage, et de même à la page 2 des instruments à travail, de la traduction d'Édouard Dorme, qui est une bonne traduction de l'Ancien Testament dans la Pléiade, et dont les notes sont toujours intéressantes. Je ne lis pas, mais vous pourrez, par exemple, pour sur votre page Instrument de travail, page 2, toute la colonne de gauche vous donne le psaume 2, son texte d'abord, et puis en bas, toutes les notes que propose Dorme, verset par verset. Et vous verrez que ceux qui s'intéressent notamment au texte original, variant, etc., c'est souvent très fouillé, c'est à la fois très précis du point de vue de la langue et en même temps précieux du point de vue de la théologie du psaume. C'est des notes de caractère à la fois philologique pour la langue et théologique. Je signale simplement donc cette traduction de l'Ancien Testament sous la direction d'Édouard Dorme dans la collection de la Pléiade. C'est pas pour rien, mais si vous en trouvez un chez un bouquiniste, ne me laissez pas filer sans l'acquérir. C'est très bon comme traduction. Puis, je vous ai mis à côté, vous voyez, en lettres hébraïques, et puis entre les lignes hébraïques, il y a la traduction, en l'occurrence, c'est une interlinéaire en italien. Moi, je vais pas mal utiliser. Pour ceux de nouveau qui s'intéresseront à l'hébreu, c'est intéressant pour faire un peu une lecture cursive, puisqu'on a entre les lignes, directement, mot à mot, une traduction littérale. Et alors vous voyez que dans les lettres, si vous prenez le premier mot en hébreu, donc la première ligne, mais vous devez lire à partir de la droite, hein, la, menatsear, à celui qui préside. Et vous voyez qu'il y a des lettres qui sont en pleine, noires. C'est la racine du mot. Et puis ce qui est en délié, c'est les préfixes. Le, ça veut dire pour. Me, c'est le préfixe qui désigne le participe. Pour le président. C'est celui qui mène, pour celui qui mène. Voilà. Et les notes sont intéressantes également. Et puis, donc, j'ai mis deux versets là du psaume 8, selon cette version interlinéaire. Et puis, sachez aussi qu'il existe un commentaire pas à pas des psaumes. Ici, on prend le psaume 8 dans ce commentaire. Qu'est-ce qui est dit à propos du verset 1? Et on vous explique le sens du mot. On vous aide à traduire. C'est de nouveau une aide précieuse pour celui qui connaît ou qui s'intéresse à l'hébreu. La page 2 ne fait que prolonger cela. La traduction de Dorn, d'une part, la version interlinéaire italienne à droite en haut, et puis les extraits de ce commentaire philologique en bas. Tout simplement pour que vous sachiez que ça existe, ou bien si vous-même vous ne connaissez pas, mais que vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à l'hébreu, vous pouvez lui signaler que ce genre d'instruments de travail comme ça sont intéressants. Enfin, la page 3, les instruments de travail. C'est tiré d'un petit fascicule intitulé « Le guide du psautier de la Bible de Jérusalem ». Le psautier de la Bible de Jérusalem, c'est celui-ci qui a été mis au point en 100 ans par Joseph Chielino et Didier Ribaud. Alors, il y a un petit volume qui s'appelle « Le guide du psautier ». Et en quoi est-il précieux? Didier Ribaud a assuré les notes. Vous voyez, en haut, à droite, par exemple, pour le psaume 2, il donne une note, il qualifie le genre littéraire, il repère les mots-clés, et puis il propose un sujet central au psaume, le drame messianique et le jugement eschatologique. Et puis, il fait le pont vers le Nouveau Testament. Pour la prière chrétienne, on peut relire ce psaume 2 dans la perspective du combat, la victoire du Christ, fils de Dieu, roi des nations. Et il décline un peu ces thèmes en donnant des tas de références. Donc pour celui qui veut creuser ce psaume et commencer par là à circuler dans sa Bible, à avoir des références, c'est des notes précieuses. La prière chrétienne, d'abord autour de la personne de Jésus, et puis l'Église, puisque c'est un psaume, on verra le psaume 2, le psaume de combat contre les impies, l'Église s'associe au triomphe du Christ, les martyrs et les confesseurs, etc. Tandis que Joseph Gélineau, lui, a assuré un index dont je vous ai mis des exemples en bas de page. Si vous cherchez dans son index des psaumes, c'est par lettre alphabétique, vous cherchez à la lettre I. Ce qu'il dit des impies, l'impie, eh bien, il vous fait tout un petit paragraphe qui donne un aperçu du thème des impies dans les psaumes. L'impie, il est plein de crimes, fraudes, violences et corruption. On vous donne, hop, allez voir toute une série de psaumes, on vous donne un verset. Il insulte Dieu, blasphème, vous voulez trouver des exemples? Voilà. Il est menteur, calomniateur, etc. Cependant, c'est le point B, il est, malgré son impiété, il se montre arrogant, puissant, triomphant sur de lui, et parfois on s'étonne que, même s'il est impie, il est heureux, riche, entouré, glorieux, il allait le prospérer, ça pose question, etc. Mais à la fin, c'est le petit C, à la fin il sera quand même puni par Dieu, voué au malheur, la défaite, et on vous donne chaque fois des références. Donc voilà, des indications pour circuler dans le psautier et comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ce vocable, cette figure de l'impie, son importance. Et puis, il y a aussi, dernière chose, un index et quelques appendices. Par exemple, je vous ai mis la photocopie de l'appendice sur les parties, les sens, les membres de l'homme, au sens où les psaumes sont très corporels. Il y a beaucoup d'images qui parlent des yeux, des mains, des oreilles, des pieds, etc. Eh bien, si vous vous intéressez d'abord aux réalités exprimées de manière plus abstraite, l'âme, l'esprit, mais alors le 94, hein, c'est le paragraphe numéro 94, la chair, le cœur, les reins, les entrailles, les os, le sang, etc. Pour que vous sachiez que ce genre d'instrument de travail existe et permet, pour celui qui s'intéresserait au psaume et à creuser telle ou telle thématique, eh bien, il a d'emblée toutes les. Joseph Gélinois a fait la recherche, eh bien, toutes les références utiles et nécessaires. Voilà, je n'en dis pas plus sur ces instruments de travail. Je vous invite à prendre là, dans les premières pages, tout le monde a eu, Anne-Marie a pu donner à chacun donc le feuille de l'eau, hein, numéro 11.
La page
11, vous avez d'abord la feuille de route de ce qu'on va voir, et aussi un tableau pour le psaume. Le psaume. On va commencer à le lire en français courant d'abord, dans une Bible à laquelle on est habitué, la Tope par exemple. Et je prends pour cela, vous voyez, avec diverses versions, un tableau. Donc à la suite de cette page 11, vous avez trois feuilles avec le texte du psaume lui-même, diverses formes. Je prends cette feuille-ci en colonne. Vous l'avez ? Alors, sur cette feuille en colonne, vous regardez la deuxième colonne à partir de la gauche. C'est la version de la Tope. Et je commence par lire le psaume, simplement, dans cette version courante. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais ce qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Puis on passe à une image. J'ai respecté les blancs dans la disposition du texte. Hein. J'ai repris la disposition que vous trouvez dans la Tope. Parce que souvent la disposition, le fait de séparer, est indicatrice de la manière dont la Bible en question vous propose de comprendre les grandes phases du psaume. Verset 3. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Voilà la traduction de la Tope et la répartition des versets en premier aperçu qu'elle propose. Je le lis maintenant en hébreu, comme il n'est pas très long, pour que vous puissiez apprécier aussi la qualité sonore du psaume. Je dis chaque fois le numéro. Ça, vous avez le texte hébraïque pour ceux. Il y en a qui font un peu d'hébreu, oui. Bon. Vous avez donc sur la feuille ici, j'ai mis le texte hébraïque et puis une traduction française. Voilà. Je vais lire verset par verset le texte hébraïque. Verset 1. Vous voyez sur quelle feuille je suis ? Merci. D'accord ? Que vous avez reçu aujourd'hui. Donc, verset 1. Ashrei ha'ish, asher lo halach be'atzat rasha'im, uderek atayim lo amat, u'moshav letzim lo yashav. Ça, c'est le verset 1. 2. Ki im betorat Adonai fekso. Uftorato yereke yomam valaila. Le jour et la nuit, yomam valaila. Verset 3. Vehayak et shatul al palugemaim, asher pirio yiten bohito, vealehu lo yibol. Vekol asher yase yatsoliach. Dans l'hébreu, il y a un mot qui était oublié, le tout début de. Ce qui est traduit par « eux » et « ce qu'il fait prospérera ». Donc, petite erreur graphique. Verset 4. Loken Arushaim, qui im que Motz a chertit de fennou Ruach. Ruach, c'est le vent, le souffle. 5. Alken, lo yakumu Arushaim va mishpat, le hataim va datzadikim. Verset 6. Qui yodea Adonai derek tzadikim, le derek Arushaim tobet. Tobet, ça veut dire, c'est le dernier mot. Se perdant. Voilà, le psaume, lui, en hébreu. Maintenant, je prends une transposition littérale. On peut la prendre, je reviens au tableau ici, et je prends la colonne de gauche. Achevé, c'est le premier mot. Bonheur de l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et dans le chemin des pécheurs ne s'arrête pas et dans la session des insolents ne siège pas. Mais plutôt, dans la loi du Seigneur, son plaisir, et dans sa loi, il médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté sur les rives d'eau qui son fruit donnera en son temps. Et son voyage ne flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Pas ainsi les méchants, mais plutôt comme la balle qu'emporte le vent. C'est ainsi que ne se lèveront pas les méchants dans le jugement, et les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car il est connaissant, littéralement, le Seigneur, le chemin des justes. Mais le chemin des méchants se perd. Ça, c'est une traduction plutôt littérale. On va y revenir quand je vais commenter. Mais ça permet de repérer exactement les mots qui reviennent. Les mots qui sont répétés. Par exemple, vous voyez, pour le premier verset, ça permet aussi de voir un peu la construction. Ashrei Ha'ish, c'est le début. Bonheur de l'homme. Qui ne marche pas dans le conseil des méchants, dans le chemin de pécheurs ne s'arrête pas, dans la session des insolents ne siège pas. Vous avez un exemple de ces parallélismes que j'ai dit, qui sont doublés et parfois triplés. C'est le cas ici, pour insister. Qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela, qui ne fait pas cela. Avec en plus, entre les deux premiers sticks, les deux premières lignes, puisque la traduction littérale respecte l'ordre des mots, vous voyez qu'il y a un croisement, un chiasme. Dans le conseil des méchants, répond à « dans le chemin des pécheurs », ne marche pas, répond à « ne s'arrête pas ». Donc c'est parallélisme pour les idées, mais il y a un chiasme. De même, au verset 6, on le verra, si vous le prenez dans la colonne du milieu, la version top que j'ai lue, ça apparaît peut-être mieux. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Bien sûr, le chemin des justes s'oppose au chemin des méchants, et le Seigneur connaît s'oppose à se perd. Voilà pour pour la transposition littérale. Je dis un petit mot, puis on fera un commentaire, un petit mot de la page 3 que vous avez. C'est celle-ci. Et vous avez du grec au-dessus et puis du latin en dessous. Vous voyez dans les feuilles que je vous ai données, vous les trouvez, il faut le temps de les trouver. Du grec au-dessus et puis du latin en dessous. Voilà. Voilà. Les feuilles que je vous ai données aujourd'hui. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a deux versions latines en dessous. Le livre des psaumes a prêté à deux traductions en latin. D'habitude, la Vulgate propose un seul texte. Mais pour le livre des psaumes, elle propose chaque fois deux textes. Et un en traduisant en latin à partir du grec, voyez, Incipit Liber Psalmorum débute le livre des psaumes. Iuxta Septuaginta Emendatus. Selon la Septante, c'est-à-dire le texte grec révisé. Tandis que de l'autre côté, à droite, il est mis Incipit Liber Psalmorum, Iuxta Hebraicum Translatus. Selon la traduction de l'hébreu. Donc Jérôme a été voir les deux, le texte hébraïque et le texte grec. Alors dans la colonne de gauche, vous voyez, j'ai mis sur le texte latin, en souligné, quelques mots qui sont, dans la version grecque, différents de ce qu'on trouve dans l'hébreu, dans la manière de traduire. Et j'ai souligné deux expressions qui sont ajoutées dans la Septante. Donc, vous voyez que la traduction grecque de la Septante, parfois, c'est permis, en relisant le psaume, en traduisant, mais d'amplifier un petit peu. Les deux expressions soulignées, c'est que, au verset 4, voilà, le texte dit « Pas ainsi les impies ». Et la Septante insiste « Non sic impii, non sic ». Pas ainsi les impies. Non, pas ainsi. Il a redoublé. Ou bien, dans la suite du verset 4, les impies, au contraire, ils sont un quam pulvis quam provocit ventus, comme la poussière que projette le vent. Hein? Et de l'autre côté, la traduction du grec dit, mais comme la poussière que projette le vent, loin de la face de la terre. Ils sont exclus de la face de la terre. Ça, c'est quand même un petit ajout où la Septante amplifie. Hein, ils sont portés par le vent, loin de la face de la terre. Bon. C'est un titre indicatif pour que vous sachiez aussi que dans la traduction latine, la traduction des livres des psaumes a ceci d'original, c'est que Jérôme en offre deux versions. Et c'est parfois intéressant de voir les différences. Maintenant, j'en viens à des traductions en disposition en français. C'est le tableau, je reviens un instant, à ce tableau, ici, en quatre colonnes. Je suis toujours sur le même feuille. Je tourne une belle. Ça va? Je laisse le temps de retrouver, d'avoir sous les yeux. La transposition littérale à gauche, on l'a vu. La Torah, Dieu, et puis la Bible de Jérusalem, qui manifestement s'est astreinte à faire trois strophes de cinq lignes. Et pour y arriver, elle a choisi de mettre rien de tel pour les impies, rien de tel. Le premier stick du verset 4, déjà dans sa strophe 2, pour annoncer le contraste. Et puis la suite va développer ce qu'il en est des impies. Mais vous voyez que la version œcuménique liturgique a fait le même choix, en même petite césure après la première ligne du verset 4. Tel n'est pas le sort des méchants. Puis on met un blanc, mais ils sont comme la paille, etc. De même, le psautier de la Bible de Jérusalem, le psautier de la Bible. Donc, la traduction liturgique, c'est ce psautier-ci. C'est celui dont vous avez le texte dans les prières du temps présent. Donc, je suis dans la colonne de gauche, de droite, pardon. Là, vous avez la version écuménique liturgique. C'est celle-ci. Psautier, version écuménique, texte liturgique. C'est celui-là. Tandis qu'en dessous, c'est le psautier de la Bible de Jérusalem, c'est celui-ci, fait par Didier Rigaud et Gélio. D'accord? Alors vous voyez que dans leur disposition, la version écuménique liturgique a choisi de le disposer, le texte, en trois fois six lignes. De même, le psautier de la Bible de Jérusalem. Trois fois six lignes. Et puis en bas de cette colonne de droite, je vous ai mis une disposition où on traduit le psaume en décasyllabes, de 10 pieds. 10. 4 plus 6 chaque fois. Vous vous souvenez, je vous ai donné un exemple de Clément Marot, par exemple, qui s'est forcé traduit. Voilà ce qu'on pourrait faire de nos jours, si on voulait avoir, surtout pour des communautés qui ne savent pas chanter les psaumes et qui les récitent, ça peut être parfois heureux, pas seulement pour les psaumes, mais pour des hymnes, d'avoir un certain rythme régulier, qui donne quand même une certaine harmonie à la récitation, du point de vue sonore. Heureux est l'homme, ça c'est le début, alors après, qui n'entre pas au conseil des méchants, ne poursuit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas au siège des moqueurs, mais se complaît dans la loi du Seigneur, la méditant le jour comme la nuit. Pareil à l'arbre au bord des eaux plantées, lui vient le temps de donner tout son fruit, sans que jamais son feuillage ne meure, tout ce qu'il fait pleinement réussi. On aurait pu mettre réussi pleinement aussi, hein, mais là, c'est pour rimer avec fruit. Puis, tout à l'inverse est le sort des méchants, comme la balle emportée par le vent. Au jugement, c'en est fait des méchants et des pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur voit le chemin des justes, mais le chemin des méchants va se perdre. Donc, si on le lit, il y a un certain rythme. Évidemment, si on se donne cette contrainte rythmique, ça veut dire qu'on est un peu moins, pour certaines expressions, un peu moins près du sens original. C'est pour vous dire, c'est pas impossible de proposer une version qui se prêterait à une récitation aussi un peu harmonieuse du point de vue sonore en français, puisqu'on ne sait pas rendre l'harmonie sonore de l'époque. Voilà pour cela. Remarque générale, maintenant j'en donne le commentaire un peu plus détaillé. D'abord, c'est un psaume bref, il a seulement 6 versets et il n'y a que 7 autres psaumes dans tous les psautiers qui ont 6 versets, dont le dernier du psautier. Donc le premier psaume du psautier a 6 versets, le dernier a 6 versets aussi. Le psaume 150, c'est le psaume, si je le prends ici, il dit ceci. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, puis louez-le en semant du corps, l'arbre et la cithare, etc. C'est un psaume aussi, encadré par Alléluia au début, Alléluia à la fin, et 6 versets entre les deux, comme le premier psaume. Les psaumes des montées aussi sont, peuvent être assez brefs dans le psautier, et le psaume le plus long, c'est le psaume, le grand psaume de la loi, 118-119, combien de versets? 176. C'est le plus long. Et le psaume le plus bref, c'est le psaume 117, 2 versets. Vous irez le voir. Donc c'est un psaume bref. Ni titre, ni indication. À la différence de, je vous ai dit souvent, il y a un titre qui donne des indications, c'est pour le chef de chœur, c'est sur tel instrument, ou les circonstances, mais non, ici, on démarre d'emblée, comme si on voulait laisser toute sa place au tout premier mot qui va résonner, achevé, heureux. Il n'y a pas de psaume, il n'y a pas de titre, etc. Mais évidemment, nos versions donnent un sous-titre. Si je prends la Bible de Jérusalem, j'ouvre la Bible de Jérusalem et chaque fois elle donne. Elle propose un sous-titre, comme si elle voulait déjà nous résumer un peu la portée du psaume. Psaume 1, sous-titre, les deux voies. Les deux voies, il y a deux chemins différents. Je vais en parler de ces problématiques bibliques importantes. Il faut choisir entre deux chemins. Ça, c'est le sous-titre de la Bible de Jérusalem. Si je prends le sous-titre de la version œcuménique liturgique, ici, en haut, en italique, le chemin des justes. Si je prends le sous-titre de prière du temps présent, le bréviaire, on prie ce psaume le dimanche 1 à l'office des lectures. C'est le premier psaume, on commence. Hein, dimanche 1 à l'office des lectures. Alors, il y a un sous-titre, psaume de sagesse, deux points, les deux voies. Alors, on ajoute que, dans une perspective, on va voir encore cette psaume de sagesse. Et puis, on donne une référence, comme souvent dans le livre de l'office, à un verset du Nouveau Testament. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent, dit Jésus en Luc 11. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et la médite sur lui. Voilà. C'est un petit verset qui propose un lien spirituel entre une expression du Nouveau Testament et le psaume. Et puis l'antienne dit, donc il y a d'abord un sous-titre, une citation du Nouveau Testament, et puis une antienne qui est proposée pour le psaume. L'arbre de vie, c'est ta croix, Seigneur, alléluia. Évidemment, il est chanté le dimanche 1 au matin. Donc il est ressaisi comme psaume de résurrection. C'est pourquoi on dit alléluia. Et on dit l'arbre de vie, mais il est quand même question dans le psaume d'un arbre planté près des cours d'eau, etc. Et on le comprend comme de la croix du Seigneur qui par sa résurrection devient non plus un arbre à gibier de mort, mais un arbre de vie. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce qu'ils proposent, comment ils comprennent le psaume. C'est un psaume bref, il n'y a pas de titre ni d'indication, mais on peut aller voir dans les différentes versions ce qui est retenu. C'est un psaume sans doute d'instruction sapientielle. Alors maintenant, pour suivre le psaume, je vais, la feuille de route donne la substance de ça, mais je vous invite à prendre vos pages 13, 14, que je vais suivre. D'abord 12. 12, 13, 14. Donc, ayez peut-être la feuille avec quelques versions du psaume pour avoir le texte du psaume sous les yeux. Et puis, je vais suivre le premier mot du psaume est une expression de béatitude, acheré, heureux, et rendu dans le grec souvent par makarioi. Et donc, quand on dit un macarisme, ça veut dire c'est une béatitude, c'est une déclaration en heureux. Heureux, ce premier mot veut dire heureux, béatitude de, progrès de. De soi, c'est un mot au pluriel, c'est béatitude au pluriel de l'homme, acheré. Suraki traduit par en route. Pourquoi? Il veut rendre la nuance de progrès de qu'on trouve dans ce substantif ashrei. Le bonheur comme on est en route vers la vie. En tête du psautier, ce déclaratif rejaillit sur l'ensemble en indiquant la voie du bonheur opposée au chemin de mort. Alors il dit dans les heureux l'homme qui. Il ne dit pas qui suit la loi du Seigneur, il commence par dire toute une série de choses négatives. Qui ne fait pas ceci, ne fait pas cela, ne fait pas cela. On a d'emblée les deux tonalités. Heureux, on va avoir un chemin de bonheur, mais ça va supposer un certain combat spirituel. Pour accéder au bonheur, il faudra éviter tout ce qui est l'autre voie, le psaume des deux voies, le chemin du malheur. Ce substantif, acheré, il est heureux, présente 45 occurrences dans l'Ancien Testament, mais plus de la moitié sont dans les psaumes. C'est intéressant. Hein, pas mal de psaumes qui commencent par une béatitude. 6 fois en tête de psaume. Je pointe dans ces 6 fois simplement 2. Celle du psaume 112, je les ai d'ailleurs soulignées. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, ainsi commence ce psaume, et qui aime ses commandements. Et puis je vous ai mis là un petit paragraphe que vous pourrez lire qui manifeste comment il y a plus d'un point de contact entre le psaume 1 et le psaume 112. Il y a plusieurs acquaintances. C'est un psaume intéressant à considérer. Et puis le fameux psaume 119, le plus long, là, celui de 176 versets, notamment, il commence en disant « Heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la loi du Seigneur. » C'est quand même ce qui est dit dans notre psaume, mais il se plaît dans la loi du Seigneur. Donc le chemin du juste est d'emblée éclairé au psaume 1 comme le chemin que balise la loi du Seigneur, et ça on le trouve dans le grand psaume de la loi. Alors le mot « heureux » encadre aussi l'ensemble du psaume, l'ensemble du psaume 1 et puis psaume 2. Donc, le premier mot du psaume 1, c'est heureux, et à la fin du psaume 2, vous avez une béatitude aussi heureux. Ce qui est une manière d'encadrer un peu les deux psaumes. Si je prends le psaume 2, son dernier verset 2, dit « Heureux qui trouve en lui son refuge ». Donc le premier mot du psaume 1 et le dernier mot du psaume 2, c'est « heureux » qui ne réapparaîtra plus avant le psaume 32. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une intention quand même d'encadrer ces deux premiers psaumes à l'enseigne du bonheur. Puis je vous ai mis les autres occurrences psalmiques. Et enfin, je signale que la racine de ce mot, « asheret », intervient, même si le substantif comme tel n'apparaît pas, mais sa racine, sous la forme verbale, intervient au psaume 72, 17, que toutes les nations le disent bienheureux à propos du roi messianique. Ce qui veut dire que là, comme on a la fin d'un ensemble, hein, dont on a vu les prières de David, qui se terminent au verset 72, sont ainsi encadrées. Remarque d'ensemble, je termine la page 12, là en bas. Heureux commande tantôt un singulier générique, c'est-à-dire on donne un mot singulier, mais dont on sent qu'il s'applique à toute une série de heureux l'homme qui, c'est un singulier générique, tantôt un mot qui en lui-même porte déjà une notion de nom, un collectif. Heureux la nation qui, heureux le peuple qui, ou bien au pluriel, heureux tous ceux. Bref, on voit que tous sont concernés. Les béatitudes singulières nominales sont rares. Heureux es-tu Simon, fils de Jonas, ça c'est assez exceptionnel. Mais dans l'énoncé des béatitudes, à Matthieu, c'est heureux les justes, heureux les cœurs purs, heureux les miséricordieux, heureux vous qui êtes persécutés. C'est au pluriel. Donc c'est une béatitude promise de soi à tous. Deuxième remarque, la béatitude est dans quasi tous les cas mise en relation étroite avec le Seigneur. N'est pas simplement dit « heureux l'homme qui fait le bien », une considération. Non, elle est toujours liée à la situation de cet homme par rapport au Seigneur avec lequel il entretient un lien particulier. L'amour de sa loi, hein, qui bénéficie de sa protection, de sa faveur, qui a la crainte du Seigneur au sein de l'amour respectueux, qui accueille même sa correction. Heureux l'homme que le Seigneur reprend, etc. Hein, parce que c'est pour son bien. Donc cette relation avec Dieu est le fondement du bonheur. Et elle appelle notre consentement en deçà de tout précepte particulier. Tout comme le sermon sur la montagne en Matthieu ne commence pas par dire les préceptes de la loi, on vous a dit, moi je vous dis, et entrer dans le détail, mais commence par les béatitudes. De même, le psautier commence par un psaume qui donne la direction générale et qui est à l'enseigne du bonheur. Je passe à la page 13. Quels sont les personnages dans le psaume ? Il y a d'abord l'homme heureux. Et c'est à la fin seulement qu'il va être appelé les justes. On voit qu'il s'agit des mêmes personnages, évidemment. Mais ce n'est qu'à la fin, une fois qu'on a parlé du jugement, qu'il va pouvoir être déclaré juste. Donc je suis ma page 13, là, pour l'homme. En regard de l'homme heureux, il y a ceux qui sont appelés les impies, les pécheurs, les moqueurs. Impies, parfois rendus par méchants, hein, le conseil des impies. Voilà. Par exemple, dans la top, heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, la Vulgate traduit heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. méchant, impie, c'est deux manières de rendre le monde hébreu. Donc en regard de l'homme heureux, on a les impies, pécheurs, menteurs. Entre les deux groupes, il y a un départage contraste. On voit bien, à travers les images qui sont mises en contraste. Mais il n'y a pas de lutte déclarée, c'est-à-dire qu'on ne dit pas le méchant est en train d'attaquer le juste. Ça pourrait arriver dans la Bible, que le juste est raillé par les méchants. Mais ici, non, on donne deux facettes, finalement, qui peuvent habiter tout homme. Tantôt nous pouvons être justes, méditer la voix du Seigneur, etc. Tantôt nous pouvons nous laisser attirer par aller au banc des rieurs, etc. Et verser dans le camp des impies, des méchants. Voilà. Donc ce n'est pas deux camps opposés. C'est dans le psaume 2 qu'on va voir un combat entre les rois qui se rebellent contre le roi Messie, etc. Mais pour le moment, il y a un contraste, mais qui nous indique qu'il y a deux voies possibles dans notre cœur et que nous allons devoir choisir. Alors, ça va supposer un certain combat spirituel, mais ici, ce n'est pas encore l'accent. Le combat est suggéré comme se voit dans le cœur de l'homme. Le Seigneur, il n'est mentionné qu'en relation avec l'homme droit. Qu'on ne parle pas du Seigneur à propos des méchants, des impies. Il n'est nommé qu'en relation avec l'homme droit. Au verset 2a, c'est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur. Et au verset 6a, car le Seigneur connaît le chemin des justes. Alors on aurait pu dire en parallélisme, mais il ignore le chemin des méchants. Mais non, ce n'est pas ça qui est dit. Il n'y a pas exactement un parallélisme. C'est comme si le Seigneur est absent de l'horizon des méchants ou exclu de l'horizon des méchants. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants, il se perd, purement et simplement. Il est absent à l'horizon des impies, le singulier, l'homme, pour être relu chrétiennement comme applicable au seul juste, parfaitement accordé à Dieu et sans aucun péché. Solitude du serviteur face aux multitudes. Autrement dit, on n'a pas un psaume qui dit « Heureux les hommes qui ?» mais il prend un singulier. Et ça, même si ce singulier, comme je dis, est générique, évidemment, on entend tout homme potentiellement, mais le fait que ça soit un singulier, ça permet de le prier aussi comme « Heureux l'homme, le juste par excellence, l'unique juste, qui ne s'égare jamais dans le camp de paix. » Ça, c'est pour les personnages. Le genre et le mode locutoire. Le psaume n'est pas comme tel une prière, il ne s'adresse pas à Dieu, mais il prépare à la prière. Il n'y a pas d'adresse à un tu, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de question, il n'y a que des assertions, des affirmations. On affirme, on dit, on déclare. C'est un psaume, un style affirmatif, déclaratif, assertif. Et des assertions positives pour dire ceci ou bien ne pas cela. C'est un genre plutôt didactique et sapientiel. La Torah, la loi comme instruction en deux sens, un précepte et aussi ce qui instruit l'homme. Donc les choses sont dites, déclarées en troisième personne, des troisième personne au singulier ou au pluriel. Alors, pour un psaume, ce n'est pas comme telle une prière, mais on voit bien que lorsqu'on comprend ce qu'il veut nous dire, qu'il nous invite implicitement à suivre le chemin du juste. Le psaume n'est pas là à prier Dieu en disant « Seigneur, donne-moi de suivre le chemin de justice ». Non, il dit les choses. Et c'est celui qui le dit qui va sentir qu'il doit exprimer son désir de prendre le bon chemin au Seigneur. Un homme sage, le psalmiste, parle à l'homme, disciple, de l'humanité devant Dieu. Les simples affirmations en troisième personne jouent en fait, ce que je viens d'exprimer, comme une invitation ferme à suivre le chemin de béatitude sous la mouvance divine. L'introduction au psaume dans le psautier de la Bible de Jérusalem dit que Dieu nous garde de prendre la voie des impies, qu'il, c'est-à-dire la Bible de Jérusalem, ressaisit les choses sous forme d'un souhait priant. Que Dieu nous garde de prendre la voie des impies, qu'il nous maintienne dans la foi des justes, à l'exemple et par la grâce du Seigneur Jésus, entièrement fidèle à la volonté de son Père. Donc c'est pour dire, de soi, le psaume ne prie pas, mais il affirme, mais on sent bien que derrière ce style, le mouvement nous conduit à la prière. Maintenant, quelques aspects de la composition. Nous devons souligner surtout les deux voix diamétralement opposées. Il y a un contraste radical entre le premier mot du psaume et le dernier. Le premier, c'est « heureux », le dernier, c'est « se perd ». Dans l'ordre de chemin des méchants, Tobet, ce père. Contraste d'autant plus fort que le premier mot du psaume commence par la première lettre de l'alphabet, Aleph, Ashrei. Le dernier mot du psaume, Tobet, commence par la dernière lettre de l'alphabet. Donc, entre le premier et le dernier mot, il y a quand même une mise en contraste. Hein. Heureux, ce père, première lettre, dernière lettre de l'alphabet. Un peu, quand même, de la part du psalmiste, un peu de recherche formelle pour rendre compte du contraste. Les versets 1 à 3 sont encadrés par des notations positives. Si vous regardez, heureux l'homme, je prends dans la version de la tombe, sur l'ordinance, hein, la deuxième colonne à partir de la gauche, heureux l'homme, et ça se termine, cette partie consacrée, il réussit tout ce qu'il fait. Une première partie encadrée par le bonheur, la réussite de l'homme qui suit. Les versets 4 à 6 sont encadrés par des notations concernant les méchants. Tel n'est pas le sort des méchants, et puis, mais le chemin des méchants se perd. Donc on voit quand même se distinguer deux parties, 1 à 3 et 4 à 6. Tout en voyant que le verset 1 a quand même déjà posé en raccourci le contraste. Heureux l'homme, qui ne prend partie des méchants, des pécheurs, des menteurs. Ça, c'est, le contraste est posé. Et puis on développe ce qu'il en est de cet homme. Il se plaît à la loi du Seigneur, il récite sa loi, on donne une image, il est planté, il donne son fruit, tout ce qu'il fait réussit. Et puis, verset 4-5, on développe ce qu'il en est des méchants. Tel n'est pas leur sort, ils sont comme la balle que disperse le vent, lors du jugement ils ne se relèveront pas, on pêche le vent. Et verset 6, comme le verset 1, repose le contraste. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Donc verset 1, si vous voulez, déjà contraste de l'homme heureux avec les impies et les méchants. Verset 6, contraste des justes dont le Seigneur connaît le chemin et des méchants qui se perdent. Et entre les deux, d'abord le développement de ce qui est dit du juste, avec tout le verset 3 qui est consacré à développer un peu l'image. On la voit, hein, un arbre plein de ruisseaux, il donne son fruit, son feuillard ne flétrit pas, il réussit tout ce qu'il fait. Tandis que pour le méchant, il y a aussi une image tout à fait opposée, mais énoncée beaucoup plus lapidairement et sèchement. Tel n'est pas le sort des méchants, que l'offre à ce titre de fenouloak. C'est-à-dire en quelques mots en hébreu, comme la balle que disperse le vent. Point à la ligne. Tandis que pour le juste, on va déployer près des eaux, son feuillage, ses racines, etc. Et puis, alors, apparaît verset 5, le moment du jugement. Donc, je reviens à ma feuille, la page 13, pour ne pas trop me disperser. Donc, un sous-ensemble 1-3, un sous-ensemble 4-6, mais j'ai en même temps noté déjà un peu plus le mouvement. À la charnière des deux ensembles, on a un renversement lapidé, puisque la fin de la première partie, c'est tout ce qui fait réussir. Et puis le verset suivant, pas ainsi les méchants. Paf, la séquence joue un parfait contraste. Entre le début et la fin du psaume, on a aussi des échos lexicaux. L'homme qui ne fait pas ceci, il est juste d'un côté, les méchants et pécheurs de l'autre. Et de part et d'autre, avec une même tournure, non pas ceci, mais cela. Au début, l'homme heureux est défini d'abord par ce qui ne fait pas de mal, puis en positif par sa complaisance dans la loi du Seigneur. À la fin, les méchants sont dits négativement incapables de se lever, c'est comme le verbe anastasis, anistamai, en grec, se lever, c'est le verbe de la résurrection, parenthèse, les méchants sont dits incapables de se lever dans le jugement à l'assemblée des justes, se lever pour une résurrection, en tout cas l'acceptant traduit par le verbe de la résurrection, ils ne se relèveront pas, ou kanastesontai. Ils ne ressusciteront pas, si on prend ce sens. Alors, vous voyez qu'au conseil des méchants, verset 1, il ne va pas au conseil des méchants, répond l'assemblée des justes, du verset 5, avec un écho sonore entre les deux expressions dans l'hébreu. Le conseil des méchants, c'est Be'atzat Rosh'aim. L'assemblée des justes, c'est Be'adat Tzadikim. Il y a tel point que la Septante traduit par le même mot. Pour dire, il y a l'assemblée des méchants d'un côté et l'assemblée des justes de l'autre. Enfin, quand c'est son option. Le dernier verset résume le contraste en deux stiques. On l'a vu, hein, par l'église en stique avec un. Ça, c'est pour l'aspect un peu construction. Les deux versets centraux, les versets 3 et 4, sont ceux où on trouve les images. Hein. Vous avez remarqué, les images sont au centre. Hein? L'image de l'arbre pour l'homme et l'image de la balle dispersée par le vent pour le méchant. 3 et 4, c'est au cœur du psaume, les images. Deux images expressives. On s'attarde à l'arbre épanoui. Vous pouvez aller voir en Jérémie un passage très proche. Mais pour la balle, trois mots dans l'hébreu, qu'emporte le vent. C'est tout. La balle, c'est l'écorce du crâne. Hein, hein, tout écrit parfois avec un aile, parfois avec deux, n'importe, ne vous étonnez pas. Hein. L'arbre, il est singulier, personnel, l'arbre comme un arbre, il est dressé verticalement, il croît de bas en haut, il est quand même dit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux, et puis on monte dans l'arbre, son feuillage ne se flétrit pas, et au passage, on parle de son fruit, donc on circule dans l'arbre, ses racines, son feuillage, ses fruits. La balle, une poussière de rien, dispersée tous azimuts, avec l'idée de jugement qu'on prouve qu'il soit de la balle au vent. En Matthieu et Luc, vous vous souvenez de l'expression de Jésus, quant à la balle, enfin le bon grain, il va le rassembler dans son grenier, quant à la balle, il la brûlera dans le feu qui ne s'éteint pas. L'arbre est solide, résistant, permanent, car il est planté près des cours d'eau, n'est pas simplement dit, il est heureux parce qu'il reçoit la pluie du ciel. Il est planté près des cours d'eau. Donc il y a une irrigation permanente dans l'image. Il est au bord d'un cours d'eau. C'est pour ça que même en temps de sécheresse, s'il ne pleut pas, mais s'il y a encore suffisamment d'eau dans le cours d'eau, il va être abreuvé. La Torah, méditée d'ailleurs jour et nuit. Donc il est planté, il est sans cesse irrigué, et il médite la Torah jour et nuit. Quand même une correspondance. Dès lors, il est fécond, puisque l'eau lui donne sa fécondité, un fruit abondant, et avec une formule totalisant tout ce qu'il fait réussir. J'ai noté quelques expressions. La balle, elle est inconsistante, éphémère, emportée d'un seul coup de vent. Voilà. L'arbre planté, sa solidité, la constance, les eaux, tout vaut ses côtes près de lui, il traverse les saisons, et la balle, un coup de vent et elle est partie. Le contraste est quand même fort marqué. Les oppositions jouent à des niveaux de sens complémentaires. Il y a le sens d'abord du bonheur, le sens global de la vie, le contraste entre le bonheur et la perte. Il y a une note éthique, morale. Hein. Il y a d'un côté les justes, de l'autre côté les méchants, les impies. Puis on nous parle du fruit qui en découle. D'un côté, c'est la fécondité, et de l'autre côté, ça se perd, il n'y a aucun fruit. Et on fait allusion au comportement concret de l'homme, marcher, le parti du méchant, ne s'arrête pas sur le chemin de pécheur, ne s'assied pas au banc des moqueurs, etc. Ça fait du comportement de l'homme. Alors, outre ces éléments de symétrie, donc j'ai marqué des éléments où on voit des contrastes, où les choses sont assez construites, il y a une certaine dynamique. Celui qui n'est nommé que l'homme, en général, devient les justes plus loin. Il faut attendre le jugement de verdict pour que soient définitivement déclarés justes ceux qui ont tenu dans une persévérance discrète, que Dieu connaît, et qui se joue dans la méditation personnelle et murmurée de la loi jour et nuit, à la différence des conciliabules, des railleries et des impies. Mais le Seigneur, lui, connaît, au sens biblique, aussi le chemin des justes. L'homme, tant qu'il est en route, est toujours susceptible aussi de changer de voie. Donc, on est en chemin. On connaît le chemin des justes, mais il s'agit de rester sur ce bon chemin, et ne pas bifurquer vers le chemin des justes. Alors, ça décline le thème concret des deux voies. Je prends encore une ou deux minutes, simplement. Je vous ai donné des références. Souvenez-vous de la fin du discours sur la montagne de Matthieu, qui joue sur les oppositions. Les faux prophètes, vous les reconnaîtrez, ils ne donnent pas de fruits. Les bons prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bâtissez votre maison sur le roc, et non pas sur le sable. Voilà. Eh bien, on a un peu ce thème des deux voies ici présents. Alors, le psaume 1, j'ai mis un petit paragraphe sur le psaume 1, portail d'entrée. Pour entrer dans le psautier, je lis ce que dit un petit cahier sur les psaumes. On comprend la place de ce psaume dès l'entrée du psautier. Il dit bien de manière radicale, vigoureuse et même schématique les enjeux d'une vie avec Dieu ou sans lui. Il l'exprime en images et aussi en termes plus abstraits, négativement et positivement. Il est simple. Dépouillé, ça ne veut pas dire banal. Puis, la manière dont Origène apprécie ce psaume. Alors, je termine par là. Dans le psautier de la Bible de Jérusalem, vous avez une prière qui est proposée à la fin chaque fois. Vous avez quelques mots d'introduction. Donc, le psautier de Jérusalem. L'introduction au psaume 1, je vous l'ai dit tantôt, elle dit « Que Dieu nous garde de prendre la voie des impies, qui nous maintiennent dans la voie des justes, à l'exemple et par la grâce du Seigneur Jésus, entièrement fidèle à la volonté du Père. » Puis vous avez le texte du psaume, et puis en dessous vous avez « Prions ». Quelques lignes, vous avez une petite prière, qui n'est pas construite n'importe comment. Une prière en liturgie, on s'adresse à Dieu, au nom, « Seigneur, toi qui es notre Père, et puis en détail ce qu'il a fait pour nous. Toi qui nous aimes et qui nous sauver, etc. Et puis la demande, donne-nous d'être fidèles à tes mains. Et puis la clausule qui se termine par l'amen de l'Assemblée, par le Christ notre Seigneur, et tout le monde répond. C'est les quatre éléments d'une oraison. Écoutez bien à la prochaine messe comment est formulée l'oraison. On s'adresse à Dieu, on rappelle toi qui, on parle de lui. On lui adresse la demande, alors fais ceci pour nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est les quatre éléments. Alors, vous voyez, comment est formulée la prière dans la Bible ? Seigneur Dieu, bonheur de qui se plaît dans ta loi. J'ai souligné les expressions littéralement reprises au psaume. Seigneur Dieu, bonheur de qui se plaît dans ta loi. Qu'est-ce que tu as fait pour nous ? Tu nous as transplantés près des eaux de ta grâce, afin que nous portions par la croix de ton Fils un fruit qui demeure. Donc, on recueille des images du psaume, les eaux de ta grâce, le fruit qui demeure, mais on le relie en perspective chrétienne, christologique, évidemment. Que nous portions par la croix de ton Fils un fruit qui demeure. On sent que ça amorce la demande qui s'explicite. Fait que nous soyons trouvés fidèles au jour du jugement, et que tu puisses nous reconnaître dans l'assemblée des justes. Là, on est en train de recueillir la fin du psaume. Pour les siècles des siècles. Amen. Et son enjeu, les quatre sens de l'écriture. Le sens littéral, c'est les expressions du souvenir. On reprend des expressions du psaume, bonheur de qui se plaît, transplanté, etc. Le sens allégorique, c'est celui qui relie une expression dans le mystère du Christ ou de l'Église, c'est ce que j'ai mis en grâce, ta grâce, la croix de ton Fils, c'est une manière de déployer le sens allégorique. Ce qu'on appelle le sens anthropologique, c'est le sens éthique ou moral. Qu'est-ce que ça nous engage à faire? Je l'ai mis en italique, fait que nous portions un fruit, que nous soyons trouvés fidèles, c'est ça qu'on demande. Et le sens analogique est celui qui pointe vers l'horizon ultime de la vie chrétienne et de la vie de l'Église. Ça, je les ai mis en petite capitale. Il est quand même question du jour du jugement, l'assemblée des justes, pour les siècles des siècles, on pointe vers le... Je suppose que beaucoup ont déjà entendu quand même parler des quatre sens de l'Écriture, c'est-à-dire il y a la lettre, et puis les trois sens spirituels, que puis-je comprendre du mystère du Christ, c'est le sens allégorique, et puis le sens moral, anthropologique, quel comportement que dois-je faire, comment, quelle attitude dois-je avoir, et le sens anagogique, c'est le sens spirituel qui donne, qui nourrit l'horizon de l'espérance chrétienne. Sens allégorique, encore puis-je croire, sens anthropologique, que dois-je faire, et anagogique, que puis-je espérer. Et le faire par excellence, c'est le faire de la charité. Donc, vous avez aussi les vertus théologales. Mais c'est pour que vous voyez comment les prières proposées dans le psautier de la Bible de Jérusalem suivent d'abord la structure habituelle d'une prière, et puis, tout en s'appuyant sur des éléments du texte, eh bien, elles sont travaillées dans le choix de l'expression. Voilà. Merci de votre attention. Vous pourrez lire ce que j'ai mis à la fin de la page 14.